Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Je me souviens de l'ouverture du 20h de Béatrice Schoenberg sur l'affaire Clinton-Lewinsky à la fin des années 90 et de l'acharnement des médias américains. Je pense me souvenir qu'à l'époque, bien que piqué de curiosité pour cette affaire, les Français dénonçaient majoritairement ce qu'on appelle un lynchage médiatique, doublé d'une morale à faire pâlir une scénariste de La Petite Maison dans la Prairie. Et voilà que depuis le début de la semaine, depuis le début des journées d'audience de Dominique Strauss-Kahn dans le cadre du procès dit du Carlton de Lille, les citoyens français peuvent se délecter de tous les détails de la sexualité de l'ancien président du FMI. Les envoyés spéciaux sont appelés à chaque flash info pour livrer les dernières perles. Les twittos rivalisent de rhétorique pour poster les catchphrases. Qu'il y ait un procès pour proxénétisme aggravé, qu'il y ait des procès pour viol, harcèlement sexuel ou que sais-je encore, la question ne se pose pas. Que le président du tribunal ait prévenu en préambule, ce tribunal n'est pas le gardien de l'ordre moral, c'est celui du droit, je le crois. Tout comme je veux bien croire que DSK n'est pas un enfant de cœur. Mais que la morale et le voyeurisme s'infiltrent dans nos médias, que les sites internet ouvrent sur un dessin du procès avec des titres en gras nourris du champ lexical du cul, me pose vraiment question.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Cyrielle et Geoffroy de l'assaut Ultrason qui proposent samedi un concert rock à l'espace culturel de l'université. Ce sera après la chronique Vigie de Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et les propos politiques. Ce soir, il revient sur les législatives partielles dans le Doubs. Mais d'abord, parlons du gaspillage alimentaire. Comment diminuer la quantité de nourriture jetée chaque jour à la poubelle? Peut-on faire les poubelles des grands magasins? Que dit la loi? Va-t-elle bientôt changer? Les légumes sont-ils aussi bons que les autres? On en parle tout de suite.
Pour du pas cher, t'es intéressé?
Pas cher, mais pour ça, faut fermer sa gueule.
Café, sucre.
Attends, et des légumes aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que les pauvres, ils bouffent de la merde.
On vole pas, on vend des produits qui auraient dû être jetés.
Puis après tout, voler des voleurs, c'est pas voler. Hein.
C'est comme qui dirait une rébellion
positive.
Extrait de la bande-annonce du film Discount de Louis-Julien Petit qui raconte l'histoire d'employés d'un magasin alimentaire qui se font virer et commencent à vendre les aliments qui auraient dû être jetés. Pour parler du gaspillage alimentaire, ce soir on va commencer par les filles parce que je suis assez traditionnaliste. Je salue Julie, Lucie et Véronique, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de la Soupe Angevine qui organise des discos soupes. On va expliquer ce que c'est tout de suite. Et puis en face de vous, Thibaut et Poy, bonjour.
Bonjour.
Salut.
Vous faites partie de l'Étincelle, l'Étincelle qui met en place tous les vendredis une cantine dont vous nous parlerez tout de suite. Vous avez vu le film de Discount dont on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce?
Ouais.
Non,
pas du tout.
Véronique, le regard sur ce film, ça dit quelque chose ou par rapport au gaspillage?
Oui, non, c'est bien. Oui, je pense. Je sais pas si c'est vraiment très réaliste de ce qui se passe. Je me méfie toujours un peu de ce que les films peuvent nous donner comme réalité. Mais oui, ils sont censés brûler, mettre de l'alcool ou de la javel sur leur truc. Puis il y a une petite révolte parce qu'ils se font virer aussi. Donc oui, non, c'est intéressant.
Depuis qu'on a programmé l'émission, j'ai l'impression de lire des articles sur le gaspillage alimentaire partout, sur Libé, le Courrier de l'Ouest et même sur Biba. Oui, j'avoue, j'ai lu ça. J'aimerais savoir si cette lutte contre le gaspillage, c'est une prise de conscience récente. En tout cas, là, elle est très médiatisée en ce moment. Est-ce que c'est pour vous quelque chose de récent dans la tête des citoyens?
Je ne suis pas dans la tête des citoyens, mais pour moi, en tout cas, vu que c'est un peu l'échelle que je connais, ça fait longtemps que l'industrialisation elle existe et que du coup, le gaspillage, il est là. Alors après, c'est l'hiver, il y a des gens qui ont plus de difficultés à trouver à manger. Du coup, je pense que pour les médias, bah, c'est un sujet comme un autre qui est un peu qui peut servir à vendre leurs médias, quoi.
Merci pour nous.
Alors, je parlais de ceux que tu avais cités,
évidemment. Alors, on va évoquer vos initiatives propres, justement, pour présenter un petit peu. On va commencer par la Soupe Angevine, qui est en fait une branche donc, du collectif, qui fait du disco soupe. La disco soupe, c'est quoi? C'est un concept qui existe depuis 2012, c'est ça?
À peu près, ouais. Et qui organise des événements pour sensibiliser au gaspillage. Concrètement, comment ça se passe ?
Lucie. Concrètement, c'est des citoyens qui se réunissent d'abord sur un marché ou sur des supermarchés ou encore aux mines ou chez un producteur qui viennent récupérer ce qui allait partir à la poubelle en direct. Donc sur le marché, par exemple, on va rencontrer, on demande, on explique un peu le projet. On collecte tout ça. On a l'après-midi pour cuisiner ce qu'on peut. Parce que des fois, il y a des quantités tellement énormes qu'on ne peut pas cuisiner. Donc à ce moment-là, on trie le plus beau qu'on donnera en direct le soir. Et ce qui est un petit peu plus, un poil plus abîmé, on va le travailler, faire en soupe. Ça, c'est le concept de base. Après, on a développé, enfin, tout le monde a un peu développé des compotes, des petits jus, des salades, bref, en fonction de la saison aussi. Et puis après, hop, on ramène nos tables, les copains, les musiciens et tous les gens qui ont été invités. Ou pas, et puis on s'installe sur la place publique, ça c'est le concept aussi de base, et puis on discute avec les gens, on les interpelle pas forcément, on n'est pas dans l'idée d'aller chercher, mais on va plutôt répondre au regard interrogateur des gens, et puis c'est de la discussion.
Et les gens justement s'arrêtent, sont intrigués, vous posent des questions, ça prend bien ?
Ouais, ça prend bien. Moi, de mon regard, je trouve quand même que la plupart des gens sont courants qu'il y a du gaspillage. Ils ne sont pas plus surpris que ça quand on leur explique. Parce que bon, des fois, ils nous demandent « c'est quoi, c'est la soupe populaire c'est pour qui ?» Mais non, moi, je ne suis pas dans le besoin. Donc, on explique un petit peu. Puis quand on amène le sujet de que ça va être jeté, on dit « ah bah ouais, ce n'est pas étonnant ». Les gens de toute génération. Donc moi, j'ai pas l'impression que ça soit quand même un concept nouveau. Quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même. C'est peut-être que là, ça devient un peu plus. On en parle plus parce que ça devient plus important dans les têtes des gens parce que il y a la crise, c'est difficile, c'est cela. Mais c'est un concept on n'est pas les premiers, je pense, à l'avoir fait, quoi.
Poi et Thibault, on va parler de cette cantine autogérée à l'Étincelle qui a lieu les vendredis midi. Depuis combien de temps ? Puis c'est pareil, c'est quoi le concept ?
Thibault ? Du coup, tu me corriges si je me trompe pas, mais je crois que la cantine Étincelle, celle qu'on a mis en place actuellement, c'est une reprise d'une cantine qui avait déjà existé auparavant, qui avait été un peu abandonnée, faute de moyens, faute de personnes pour s'en occuper. Nous, l'objectif de cette cantine, par rapport à la soupe angevine, on est moins sur le devant de la scène, moins dans la rue, on reste à l'Étincelle dans nos locaux. On cuisine ce qu'on récupère, clairement.
Que vous récupérez où ?
Alors là, moi, je suis moins dans la partie récup, c'est plutôt ta spécialité.
Ouais, bah, même si on essaie qu'il n'y ait pas trop de spécialités à la cantine, mais ouais, les poubelles des supermarchés, bio, pas bio, les marchés. Voilà, après nous, c'est... On n'essaie pas de récupérer un maximum de trucs, on essaie de récupérer un petit peu pour pouvoir faire à manger pour 15-20 personnes le vendredi. Et bon, bah si y a plein de gens qui viennent, et bah peut-être ça sera amené à grossir. Mais voilà, l'idée aussi de cette cantine, c'est d'essayer d'expérimenter l'autogestion, un rapport de non-hiérarchie, de se mettre un peu d'accord sur ce qu'on a envie de cuisiner et puis de le faire ensemble. Ouais. Et puis aussi, je sais pas si tu...
Non, c'est l'essentiel. Hein. On se retrouve on est 5-6 dans la matinée pour cuisiner. Après, vient qui vient, il y en a qui arrivent plus tard, il y en a qui arrivent plus tôt. On a une bonne petite équipe de lycéens, de Joachim, qui viennent manger avec nous le midi, c'est plutôt sympathique. Comme tu dis, il n'y a pas de hiérarchie, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, s'il en a envie. Des fois, il suffit juste de mettre le menu sur une feuille et de l'afficher dehors, ça fait participer à la cantine aussi. C'est intéressant, Et comme je disais, il y a des lycéens, mais il y a aussi des personnes plus âgées, d'une cinquantaine d'années. C'est un mélange de générations qui est intéressant toujours. Et toujours dans l'objectif d'autogestion, de la mettre en pratique tous les jours. C'est quand même ça le but principal de l'Étincelle et de la cantine.
Et du coup, accessoirement, de récolter un peu des fonds pour alimenter une caisse de soutien qui vient en aide. Bon, on peut donner quelques petits exemples. Les anarchistes en Biélorussie, par exemple, qui ont beaucoup de mal à exister. Et qui sont en prison, et du coup on leur a filé des thunes. On a filé des thunes aussi à des inculpés, des militants qui luttent contre l'implantation de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, c'est une caisse de solidarité qui est alimentée par cette cantine. voilà, on a très peu de dépenses et du coup l'argent récolté, les gens donnent ce qu'ils veulent pour le repas. Voilà.
Alors la soupe Angevine, la cantine autogérée de l'Étincelle, on a un troisième exemple, on a appelé cet après-midi Lina des Gaspilleurs. Les Gaspilleurs, c'est pareil, c'est un mouvement qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Je vous propose de les écouter, c'est Thomas qui l'a eu au téléphone.
Bonjour Lina, vous faites partie du collectif Gaspilleurs, qui est un mouvement qui dénonce les aberrations de l'agroalimentaire et qui distribue gratuitement les denrées qui sont jetées pour sensibiliser au gaspillage. L'initiative, elle est née à Lyon en février 2013. Et cette récupération, elle s'articule donc en deux moments. Il y a dans un premier temps la quête de denrées qui se fait la nuit. Et puis dans un second temps, la distribution gratuite sur des places publiques, des lieux de passage. Qu'est-ce qui importe le plus aux yeux du collectif? Est-ce que c'est plutôt le côté actif, le côté action ou au contraire le côté sensibilisation au niveau des personnes qui découvrent le collectif?
Ouais, le but de l'association, c'est de faire de l'information et de la sensibilisation au gaspillage. Donc on va peut-être avoir plus d'impact quand on fait des distributions, qu'on touche les passants dans la rue, de mettre sous leurs yeux autant de kilos de nourriture qu'ils ont l'habitude d'acheter et là qu'on a récupéré dans les poubelles. Après, les missions de récupération de nuit, c'est aussi un moyen pour les personnes qui nous accompagnent. Cette mission récup, en général, c'est une expérience assez inoubliable et choquante pour ceux qu'on n'a jamais fait, parce qu'on tombe vraiment sur des quantités incroyables, et de les découvrir soi-même, c'est quelque chose d'assez fort. Je trouve donc c'est de la sensibilisation à la fois par l'action et à la fois pendant les distributions dans la rue.
Vous invitez désormais les gens qui sont motivés en fait à monter leurs propres antennes dans d'autres villes, à monter leurs propres équipes. Quels sont les profils de personnes qui vous rejoignent dans le cadre de ces actions? Est-ce que ce sont plutôt des adultes, des adolescents, des étudiants peut-être?
On a un peu de tout profil, mais c'est vrai que la majorité sont quand même des jeunes adultes, entre 20 et 30 ans. Après, il nous arrivait de faire des récup et des distribs avec des personnes assez âgées, des jeunes, vraiment des personnes de tout profil. Et puis là, ceux qui sont en train de monter des antennes locales, on les connaît pas forcément personnellement, et la plupart sont des personnes qui ont entendu parler de notre démarche, qui eux-mêmes pratiquent la récup et qui ont envie un peu de faire partager ça avec d'autres.
Et c'est pas de tout repos, puisqu'il y a certaines de ces actions qui sont de l'ordre de l'illégalité, on pourrait dire. Par là, je tiens à préciser en fait qu'il vous arrive, si je ne m'abuse, de vous introduire par effraction donc dans des lieux privés pour récupérer donc des aliments consommables qui ont été jetés dans les poubelles. Hormis du coup cette discrétion qu'il faut conserver, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a des difficultés judiciaires?
Alors un déchet n'appartient à personne et appartient au premier à s'en emparer. Le problème, c'est que la plupart des grandes surfaces gardent leurs poubelles soit sur leur parking, soit derrière des grilles. Donc sur leur propriété privée. C'est pour ce motif qu'on risque des suites en justice si on se fait prendre en flagrant délit. Après, nous, on n'a jamais eu de problème personnellement avec les forces de l'ordre, mais ce qui pose problème pour faire la récup, c'est que de plus en plus de supermarchés rendent inaccessibles leurs poubelles, donc soit les gardent à l'intérieur du magasin, où vont mettre des grilles extrêmement hautes, infranchissables, des vigiles, des chiens. Enfin voilà, il y a beaucoup d'obstacles dans certains supermarchés pour atteindre les poubelles. Donc au final, c'est pas du tout possible de récupérer dans chaque grande surface.
Et on salue Diego de la cantine de l'Étincelle qui vient d'arriver. Bonjour.
Salut.
On vient d'écouter donc Lina des Gaspilleurs. Juste un chiffre, chaque année, c'est à peu près 30 à 40 kilos de produits alimentaires qui sont jetés par ménage et un supermarché produit 2000 tonnes de déchets. C'est peut-être une question débile, mais je vous la pose quand même. C'est quoi qui vous choque le plus entre le gaspillage d'un ménage ou le gaspillage d'un supermarché? Diego, comme vous venez d'arriver, ce sera pour vous cette question.
Ouais, t'as bien qu'arrivé à l'heure.
Ok.
Moi, ce qui me choque le plus, c'est la production à la base. Ouais. C'est avant le supermarché, en fait. Ouais.
Les ménages, enfin, c'est pas dans leur intérêt de gaspiller, de jeter, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent. Et encore une fois, si on est sur le ménage, on va le moraliser. que c'est pas à lui à la base aussi, c'est aux industriels, c'est aux grandes surfaces, c'est tout ça, quoi. Et surtout, c'est qu'il y a, une politique du gling-gling du légume, quoi.
Justement, ça, on va en parler juste après Cinéplex avec Effecto Visual.
Le niveau, il est pas plus là, quoi.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Tu peux potentiellement être tout ce que tu veux. Jus, soupe, purée. Il suffit de le vouloir. Qui a dit que tu ne pouvais pas être vendu dans les supermarchés? Qui? Maintenant, tu dois commencer à croire en toi parce que sinon, personne d'autre le fera. Quand tu seras dans une cagette au supermarché, je veux que tu te redresses et que tu te sentes fier de qui tu es. Parce qu'il n'y a rien de mal. À être moche.
Les légumes moches ont-ils le même goût que les autres légumes? Ça, c'est une vraie question. C'était un petit spot d'Intermarché qui fait sa pub sur les fruits et légumes moches, puisque ce soir, on parle du gaspillage en compagnie de Lucie et Véronique de la Soupe Angevine, de Diego, Thibaut et Poy de la cantine autogérée de l'Étincelle. Donc Intermarché qui a lancé ce mouvement là en mars dernier des fruits et légumes moches avec des rayons dédiés aux fruits et légumes qui ne sont pas calibrés, qui ne sont pas assez beau habituellement. Pour vous, est-ce que ça, c'est, on va dans le bon sens ou ça reste encore une mesure assez cosmétique quoi pour être sympa?
C'est sûrement d'abord de l'image évidemment, mais c'est un pas comme un autre finalement. Il y a un public en face. Pourquoi pas?
Ouais, enfin oui, c'est un pas, mais moi je me pose toujours ce qu'il y a derrière. C'est pas les petits producteurs que ça touche.
Ouais.
Ouais, c'est les grosses. Là, je pense carrément à l'orange. C'est derrière, c'est des gros producteurs d'orange. Ils vont être contents de pouvoir nous balancer aussi le reste. Enfin, je veux pas non plus être complètement pessimiste, mais.
La solution, elle est en amont, quoi. Elle est pas là, dans les rayons des supermarchés. Oui.
Tu voulais parler?
Ouais, bah pour moi la solution c'est de pas aller dans les supermarchés en fait. Ça c'est déjà une bonne solution. Et après le problème c'est que, enfin pour moi le problème c'est qu'on dise qu'il y a des légumes moches et des légumes beaux. Un légume ça pousse, point. C'est après le problème c'est que c'est les supermarchés qui ont voulu calibrer des légumes, faire des carottes qui soient très fluo, qui fassent 16 cm de long avec un certain diamètre, etc. Et ça c'est le problème. Si vous allez sur un étal de marché, chez un paysan, vous allez voir qu'il n'y a pas de légumes moches, il y a des carottes, point, ou des patates, point.
Voilà. Ouais, enfin, par exemple, pour avoir travaillé avec des maraîchers, ils trient quand même leurs patates, quoi. Et nous, on ne voit pas les patates moches. Ils se les gardent, ils les mangent.
Ouais.
Et parce qu'il faut que la recouper en 4, en 5, parce qu'il faut enlever tous les trucs. Ouais.
Oui, c'est dans un souci de conservation aussi. En tout cas, pour exemple, des patates, si tu as une patate pourrie, il faut mieux l'enlever. Ou une patate abîmée, elle va risquer d'abîmer les autres. Mais du coup, c'est dans la production, il y a forcément un tri. Du coup, dans ce tri-là, bah oui, qu'est-ce que le producteur il fait de ce qu'il va pas pouvoir commercialiser dans un réseau, on va dire, de grande distribution ou de distribution tout court? Parce que forcément, bah, y en a qui, avant, avaient des cochons à la ferme, donnaient toutes les patates, ils les faisaient cuire, les donnaient aux poules, aux cochons. Voilà, c'était aussi une forme d'autarcie dans la forme de la ferme. Aujourd'hui, c'est de plus en plus industrialisé. La monoculture, tu parlais de l'orange. L'orange, c'est de la monoculture quasiment, qui vient des pays du sud de l'Europe. Et voilà, dans des cursus de commercialisation de produits comme ça, bah, s'ils arrivent à en plus commercialiser ceux qui sont un peu, bah, qui n'ont pas le calibre habituellement trouvé dans le commerce, bah, ils vont faire, et au moins forcément c'est un pas. Mais voilà, on parlait de problèmes et de solutions. Bah, voilà, moi je pense que le problème c'est la production et comment... comment les gens aussi qui consomment, ils sont complètement très loin de ce qui est produit, quoi.
Tout à l'heure, Lina des Gaspilleurs parlait des problématiques qui sont judiciaires plutôt, enfin, du fait qu'on ne puisse pas forcément aller servir dans les poubelles. Début février, il y a eu un procès dans l'Hérault de 3 personnes qui avaient récupéré de la nourriture dont la date de péremption était dépassée, qui avait été jetée dans les poubelles, sauf que les poubelles étaient dans la cour intérieure d'un supermarché. Et donc, voilà, procès. Est-ce que ça, c'est une question qui vous intrigue aussi, qu'on ne puisse pas aller servir dans les poubelles des supermarchés et parfois que les supermarchés javelisent les produits qui sont jetés?
Bah, qui m'intrigue, moi, m'intrigue pas. Elle est là, après le fonctionnement. Enfin, moi, c'est révoltant. Mais voilà, nous, par la Disco Soupe, on peut récupérer des légumes par un supermarché, à condition de signer le petit bulletin qui déduise des impôts. Donc, il est brûle tout ça parce que il préfère perdre cet argent-là que de la laisser et de la donner. Et le jour où ils vont comprendre qu'en signant des petits bulletins, qu'ils vont pouvoir s'arranger avec financièrement avec des impôts, les déduire des impôts, bah, ils les arrêteront de les brûler. Ouais, c'est juste révoltant, je sais pas.
Ouais, moi, je trouve que c'est.
Ouais, j'allais dire, je pense la même chose que toi, je pense que c'est quand même dommage d'arriver à cette. Tactique-là de la part des forces publiques, de demander au supermarché de donner les légumes, et en échange, on vous donne un petit cadeau, vous paierez mon impôt. Enfin, le bon sens voudrait que, bah oui, quand on arrive à une date de péremption, qu'on doit fixer plus ou moins tard selon les produits, bah voilà, on les donne, les produits, ça coûte plus rien à personne, ça devrait être logique, quoi. C'est ça qui est révoltant, c'est pas le fait que certaines personnes, bah oui, c'est malheureux, ils ont été en procès. Moi, je trouve ça atroce, mais normalement, le procès a pas lieu d'être, quoi. Les légumes étaient. Selon les critères du supermarché invendable, bah voilà, on les donne et puis on s'en fiche, quoi. Ça coûte l'argent, ils ont largement assez de bénéfices, assez de marge sur ce genre de produit pour se passer d'une exonération d'impôts.
Alors je ne sais pas si ça va vous révolter, mais en tout cas il y a une semaine, il y a un projet de loi qui a été présenté d'un député qui s'appelle Jean-Pierre de Colle. Un projet de loi qui propose d'obliger les grands magasins de plus de 1000 mètres carrés à donner leur surplus. Est-ce que ça, c'est pour vous une mesure qui va dans le bon sens, ou c'est encore quelque chose qui, comme vous disiez Véronique tout à l'heure, qui participe à la surproduction, comme Paul disait?
Bah, si c'est vraiment donné, c'est bien. Vraiment donné. Mais pas en échange d'une signature sur des papiers. Là, c'est plus de la donation.
Bah, en tout cas, les Restos du Cœur fonctionnent énormément avec des dons de produits qui sont vraiment en date limite, par exemple, de péremption. Du coup, ça se fait déjà. Qu'il y ait une loi pour obliger les magasins à le faire, bah, c'est peut-être mieux qu'une loi qui les oblige à mettre de la javel dessus pour pas que les gens y consomment et qu'ils aient des problèmes de santé à cause du supermarché. C'est pour ça, en fait, qu'ils font des procès. C'est parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes après, à la suite. Bah, entre autres, je pense que c'est une des raisons. Après, voilà. Souvent, les produits qui sont périmés, ils sont déjà bourrés de conservateurs, et puis du coup, ils sont encore mangeables après la date de péremption. Quoi. Mmh.
Si on faisait un tour de table et si chacun donnait ses conseils, alors au niveau individuel, voilà, dans les appartements des étudiants, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réfléchir pour ne pas se retrouver avec les chiffres qu'on citait tout à l'heure?
Moi, je trouve que c'est une erreur de faire culpabiliser les gens sur le gaspillage, alors que c'est les industriels qui gaspillent un maximum. Après, je pense que chacun, on peut faire des efforts sur les façons dont on a de consommer. Et de ne pas aller au supermarché, par exemple, c'est un exemple.
Oui, bon, tu peux très bien aller au marché, puis te retrouver aussi avec du gaspillage. Hein. Mm-hmm.
Il n'y a pas de...
Oui, tu veux dire, c'est dans notre façon de consommer qu'on peut éviter après, le gaspillage.
Mais voilà, après, enfin, c'est mais je suis d'accord aussi que, enfin, les conseils, enfin, j'ai toujours peur que ça soit moraliste. Et après, enfin, encore une fois, je pense que les foyers, les gens, c'est pas dans leur, ils font ce qu'ils peuvent, c'est pas dans leur intérêt. Enfin, la plupart des gens savent faire des soupes, sauf quand des jardins, ils ont compris qu'il faut les mettre dans le jardin. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que. Il y a d'autres gens que je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais du coup, je ne peux pas...
Moi, je dirais qu'il faut se faire... On peut se faire confiance en tant que consommateur, des fois, et pas se fier juste à un numéro sur un produit de supermarché. Et on peut goûter, c'est pas grave. C'est tout bête, hein, ce que je dis. Hein, juste, ça n'apporte pas grand-chose. Tout le monde peut-être fait ça, mais...
Alors, tu ne vas pas mourir foudroyé. Là, voilà. Il y a yaourt où la date est périmée. Voilà.
Et puis, il y a plein d'autres choses à faire. On peut faire des conserves, on peut faire sécher. Il y a des séchoirs, des trucs comme ça, des trucs tout simples pour des fruits, par exemple.
Et puis, on peut aller à la Disco Soupe le samedi prochain.
Voilà,
le 14 février. Ouais. Et c'est pas que pour les amoureux, c'est ça qui est écrit sur le...
Oui.
Alors, c'est où? C'est à quelle heure?
Place Romain.
Alors, c'est à la jonction... Place Romain, c'est la Fontaine du Dialogue, à la jonction de la rue Saint-Lô, donc Barre du Centre, etc., et de la rue des Poiliers, la Civette, repère bar.
À partir de
18h30.
18h30.
Voilà.
Et on peut aussi aller à la cantine de l'Étincelle tous les vendredis à partir de quelle heure? Puisqu'on peut aussi participer à, voilà, justement à faire manger.
Oui, la récup aussi. En fait, donc nous on fait la récup, enfin nous, ça commence un peu à... Le champ des acteurs commence un peu à se réduire sur la récup. Mais en gros, il y a la récup, ça vous pouvez la faire quand vous voulez et venir avec vos légumes dès 10h30 le vendredi matin. À partir de 10h30, on commence à cuisiner ensemble et à discuter, à faire des trucs. Et à midi et demi, à peu près, on mange tous ensemble. Et voilà.
Tous les vendredis.
Tous les vendredis.
Au 26 rue Maillet.
C'est ça.
Merci beaucoup, Diego, Poi, Thibaut, Lucie et Véronique d'avoir été dans le sous-marin.
Merci. Merci.
Y'a comme un goût de déjà vu dans son chewing-gum. Mastique et reste au garde à vous pendant qu'elle swing l'homme. Belle sur le ring, elle boxe avec son jean. Un été sun sur le dream avec un cocktail gin. Un air de voyez-vous avec ce D. John. Voilà qu'elle sent le coup de foudre sur ce big love. Elle remonte son string en face de son James Dean. Le steak brûle sur le gris et les dents blanches d'Eve brillent. Un air de déjà vu dans son only you. La plastique reste au rendez-vous quand son body move. Son instinct de film et son blues d'andine. Voilà son festin de mime, elle tire dans le mille. Y'a comme un ton de voyez-vous dans sa gueule de louve. Le type même un peu voyou dans son regard groove. Il sort ses bling bling devant ses yeux qui brillent. Et boit ses lèvres toutes clean avant que le réveil dring. Et vous, comment allez-vous quand le baby cry? Elle mate et l'appelle daddy quand il boit son sky. C'est sa West Side Story, manque le happy end. Il sort son best style, oh oui, devant sa mimi dinde. Un air de désabus quand minuit sonne. La petite passe au désaveu sur ses belles dames. Miss Night Express file au milieu des buildings. Se casse dans son Austin sur un air de Sting. Yeah.
comme un goût de calories dans son chewing-gum. Les cheveux gras, les cheveux plats, hautes comme trois pommes. Elle était ugly sur le ring et catch avec son jeans. Cache quand se pointe Jimmy avec sa milady. Des rêves d'American Idol nichés dans sa tête. À en cacher ses rondeurs derrière sa salopette. Elle ne songe même pas à l'équation slim string. Autant offrir à un manchot une poignée de Breitling. Y'a comme un air de rhythm and blues au fond de ses yeux. Elle détourne son regard vexé de tous les beaux gars. Elle se dit qu'un jour viendra un sourire de star. Un qui aura Stenson, la gueule d'Humphrey Bogart. Un qui lui soufflera des mots doux, pou, pou, bidou. Qui la fera marcher à cloche-pied sur les rayons de lune. Un qui la prendra dans son Teddy North Carolina. Un qui pour être beau n'aura pas besoin de Gomina. Y'a comme un goût de bigoudi dans son chewing-gum. Elle va fêter Happy Birthday dans un nightclub. Elle était jolie sur la piste et va avec son style. Elle a du sexe à pile sur Aretha Franklin. Y'a comme un goût de bistouri dans son chewing-gum. Il a le style simplet et le regard sitcom. Des tas de loups autour de son bombé Bonda. La soirée s'éteint sur la banquette de la Honda.
C'était Odezen avec Chewing-Gum.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Il est 19h30, c'est l'heure de retrouver Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et passe à la moulinette les propos de nos hommes politiques. Salut Pierre-Antoine.
Salut.
Alors dimanche dernier, les électeurs de la 8e circonscription du Doubs étaient appelés aux urnes pour le second tour de législatives partielles opposant le PS au FN.
Oui, un sujet qui fait écho à celui de la semaine dernière, Tiffaine, et où nous, enfin, j'avais fait une erreur factuelle au début de ma chronique. J'y annonçais que Sarkozy avait pris position pour le Nini, c'est-à-dire qu'il appelait les électeurs de l'UMP à voter ni PS ni FN, l'UMP ayant été éliminé au second tour. C'est une erreur, puisque Nicolas Sarkozy souhaitait faire barrage au Front National tout en laissant les électeurs choisir. Oui, c'est un peu bancal comme choix, une position désavouée ensuite par le bureau de l'UMP qui, lui, s'est prononcé pour le Nini avec 22 voix contre 19. Mais à culpa, donc.
Alors cette semaine, on va essayer de ne pas faire d'erreur.
Et intéressons-nous à la réaction d'Edouard Philippe, député maire du Havre et UMP, suite aux résultats des élections qui ont vu le PS l'emporter de justesse à 51,43% contre 48,57, un écart de seulement 1200 voix. Et pour Edouard Philippe, l'explication du vote est d'abord à aller voir du côté de la participation.
D'abord, moi, ce que j'observe dans le scrutin d'hier, c'est qu'il y a eu plus de participation qu'au premier tour. Enfin, cela dit, ça aurait été difficile qu'il y en ait moins, parce que 35% de participation sur une législative partielle au premier tour, c'est quand même assez compliqué d'imaginer moins. On est monté, je crois, à 43 ou 44%. Ça veut dire quand même que même sur un deuxième tour, une partielle qui focalise l'attention du pays, il y a quand même plus d'un électeur sur deux qui ne va pas voter.
35% de participation au premier tour, 44% au second, est-ce que c'est si exceptionnel?
Alors déjà, Tiffaine, signalons une approximation d'Edouard Philippe. La participation n'était pas de 44%, mais de 49,07% exactement dimanche dernier. On suppose que le maire du Havre n'avait dû retenir que les chiffres de participation à 17h, soit une heure avant la fin du scrutin, qui eux étaient de 43,5%. Mais allons plus sur le fond, une participation faible lors de législatives partielles, ce n'est plus très surprenant. Depuis quelques années, les élections partielles n'attirent plus les foules. Regardons en 2012 par exemple, année qui a vu, outre les présidentielles et les législatives de juin, trois autres législatives partielles en fin d'année. Dans les Hauts-de-Seine, d'abord, une participation similaire à celle de dimanche dernier, puisque 36% des électeurs avaient voté en 2012. Une participation ensuite un peu plus forte dans l'Hérault, non pas Jean-Marc, mais le département, avec 41%, mais plus faible dans le Val-de-Marne, où seulement 29% des électeurs au premier tour se sont rendus dans les bureaux de vote. Encore plus fort, seulement un électeur sur cinq s'est déplacé au second tour, un constat que l'on retrouve en 2013 dans l'Oise, où la participation est montée à 35%. 2014 ensuite, avec les européennes, a été marqué par l'abstention dans toutes les élections, exemple avec les législatives anticipées en Polynésie française, avec 34,3% de participation. Et puis les 22 et 29 juin dernier, c'est dans le Nord que tout se jouait, duel UDI-FN remporté par l'UDI. Le FN n'a gagné aucun des 12 second tours disputés depuis 2012, avec une participation au second tour de seulement 25%. Maintenant, Tiffaine, demandons-nous quel spectacle quel spectacle offre-t-on à la démocratie française avec des représentants du peuple élus avec la voix de la moitié du quart des électeurs? Pour ceux qui ont un peu plus de mal avec les maths, ça fait environ 12,5% par candidat au second tour si c'est serré. Alors peut-être que certains devraient prendre exemple sur les électeurs de Wallis et Futuna qui ont eu le droit eux aussi à leur législative partielle les 17 et 24 mars 2013. 75% de participation au premier tour, près de 80 au second, ça fait presque rêver.
Merci Pierre-Antoine.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonjour, Cyrielle.
Bonjour.
Ah ouais, le micro est allumé. Vous êtes coordinatrice de l'association Ultrason et à côté de vous, en studio, Geoffroy, bonjour.
Bonjour.
Vice-président de l'association. Alors, vous présentez samedi prochain, samedi 14 février, votre premier concert de l'année 2015, si je ne me trompe pas. À l'espace culturel de l'université, une soirée gratuite articulée autour de trois jeunes, très jeunes groupes, Black Bubble, Stupid Jokes et Creamy Birds. Une soirée intitulée La Relève, puisque forcément, on va en parler, ils sont très jeunes. C'est des groupes qui avaient participé au Face to Face en novembre, qui avaient perdu, je crois. Et on va peut-être rappeler ce que c'est que le Face to Face.
Oui.
Le Face to Face, c'est une première édition cette année. C'est un événement qu'on a initié, qui s'est passé dans le Forum du Quai le 15 novembre dernier, et qui opposait sur deux scènes face à face 16 groupes. Théoriquement, il y en avait 14 en fait le jour J, mais qui opposait 16 groupes dans des battles. Et l'idée de ça, c'était surtout de se monter une grosse fiesta avec les groupes locaux, puisque c'était que des Angevins en fait qui participaient à cet événement. L'idée du face-to-face, c'était de sortir un gagnant, donc effectivement, il y avait un esprit compétition. Les trois groupes qu'on fait jouer samedi étaient tous les trois challengers. Et c'est des jeunes groupes qui ont eu la malchance de tomber sur des gros groupes au premier et second tour. Donc c'était aussi l'idée pour nous de la soirée de samedi, de leur rendre un hommage en les réinvitant avec un peu plus de temps de jeu sur une soirée qui leur est consacrée.
C'est un joli lot de consolation, quoi.
Bah,
ça va.
Ouais. J'espère. On est content de les accueillir.
On va en parler de ces groupes. Alors justement, Creamy Birds, qu'on connaît peut-être davantage depuis un an et demi. On va peut-être les présenter, Cyrielle. Je vois que c'est toi qui vas t'y coller.
Elle a sa petite fiche.
Oui. Bah, nous, les Creamy Birds, on les connaît depuis un an. Enfin, un petit peu plus d'un an. On les a programmés à la fête de la musique, du coup, Place du Ralliement. Ça a été je pense que c'était dans leur première date. Du coup, au niveau du style, c'est rock british. Alors eux, ils disent qu'ils sont des influences rock alternatives, pop avec quelques touches un peu funky. À voir sur scène, c'est bien péchu et agréable.
C'est vrai qu'ils sont rigolos, ouais. Face to face, ils étaient bien en forme, c'était.
Ouais.
Il y a aussi Black Bubble. Et là, pour le coup, c'est très très jeune.
Ouais, mais par contre, Black Bubble ont plus d'expérience que Creamy Bird.
Je parlais en âge,
ouais. Ah ouais, en âge, ouais. Oui, ils sont entre 15 et 18 ans. Et Black Bubble, du coup, ont joué l'année précédente, enfin l'année d'avant, donc du coup, on est en 2013.
Sur la, ouais, Fête de la Musique 2013, on les avait fait.
Pareil, ça devait être dans leur premier concert, mais ils avaient déjà fait un tremplin à Jean Villard. Enfin, ils ont démarré vraiment très vite. Et depuis ça, ils ont fait un clip dans la prison d'Angers, enfin dans une prison, je sais plus trop si c'est celle d'Angers. Et notamment fait la première partie de Skip the Use aussi.
Joli.
Ouais, pour un groupe très très jeune, c'est quand même assez énorme. Et en tout cas, pour les avoir revus au Face to Face, ça faisait un moment que je les avais vus sur scène. D'ailleurs, ils jouent ce soir, sûrement, en ce moment.
On stage au Shabada.
Et ils n'ont pas peur du public et pas peur de la scène, et ça promet.
Pas intimidé, quoi.
Non.
Et puis, Stupid Jokes, troisième groupe programmé.
Alors eux, c'est vraiment pour nous les nouveaux. On les a découverts au Face to Face et on aimerait bien les découvrir un petit peu plus longtemps.
Une sacrée énergie dans ce groupe-là. C'est pareil au Face to Face, c'était un bon moment parce qu'on a dû les voir jouer que 5 minutes en soi ce jour-là. Et ils ont tout donné en 5 minutes. C'est je crois que c'est le chanteur de Stupid Joke qui avait slamé, alors qu'il n'y avait pas full à l'heure où ils avaient joué et tout. C'était vraiment bien, quoi. On sentait qu'ils n'avaient pas peur d'y aller, et puis vraiment, vraiment grosse énergie. C'était plaisant à voir, ouais.
Donc c'est une soirée très rock en fait.
Oui. Hein. Ouais.
Vous attendez à quoi comme public?
Jeune.
Les copains du lycée.
C'est ça. Les copains, et l'entourage. Je pense qu'on aura aussi des membres de notre réseau qui sont peut-être un petit peu plus vieux. Et puis peut-être aussi des papas et des mamans.
Non, ce qu'on espère aussi, enfin pour nous cette soirée avec trois groupes jeunes comme ça, c'est un peu un retour aux fondamentaux pour nous, parce que nous on a commencé à organiser des concerts comme ça il y a 6 ans on était plus jeunes aussi, donc quand on faisait jouer nos groupes de potes, les groupes qu'on fréquentait et tout ça à cette époque-là, c'était des groupes vraiment tout jeunes qui faisaient parmi leurs premières scènes. Et où il y avait vraiment ces ambiances de public hyper jeune, les copains du lycée, on s'attend un petit peu à ça aussi, à retrouver un peu le plaisir des premières soirées qu'on a pu faire il y a 6 ans. Ouais.
Justement, ouais, Ultrason s'est créé en 2008. Quel regard, vous êtes nostalgique ou quoi, depuis tout ce temps qui est passé? Quel regard vous portez sur le travail qui a été fait là pendant ces 6 ans?
C'est une belle question, ça.
Moi, au vu de la dernière saison, avec notre fête de la musique, avec les deux scènes Place du Ralliement et le face-to-face, il y a beaucoup de fierté. Enfin, en prenant du recul, je n'en vois, donc il y a 7 ans, on n'aurait sûrement jamais imaginé avoir la chance d'avoir deux scènes Place du Ralliement pour la fête de la musique et d'organiser un événement d'aussi grande ampleur. Ça aurait fait partie du rêve et du délire qu'on aurait pu avoir. Je suis ravie qu'on ait réussi à faire tout ce qu'on a imaginé en fait. Enfin, il y a 7 ans, on imaginait faire des événements, des gros événements, et donc du coup c'est fait. Enfin, et ça, j'espère que ça va continuer. Et là, le thème de cette soirée, la relève, pour moi, c'est un peu... Bon, on fait des gros événements, mais il faut se rappeler de d'où on vient. Pourquoi on a créé l'asso et qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous anime. Et, enfin, je me dis que ça pourrait être aussi une soirée qui nous rendrait un peu nostalgique et peut-être cucu, mais de voir ces groupes qui débutent, c'était les groupes de nos potes ou nous. Moi, je faisais partie des groupies dans le public. Pour l'aider.
Ouais, et puis nostalgie au regard des 6 années écoulées, du coup, peut-être j'ai une grosse cinquantaine de dates organisées. Pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est resté la même équipe, ça se fait toujours dans le même esprit. À la base, on était tous en sortie d'études, on avait des idées sur les boulots respectifs qu'on voulait faire, soit dans la technique, soit dans la com culturelle, soit dans tous ces boulots autour du spectacle. Aujourd'hui, on est plus ou moins tous pros là-dedans, mais on continue à faire ça plus ou moins bénévolement pour l'asso. Enfin, voilà, ça reste la même équipe de base, il y a toujours cette énergie-là, donc c'est pas de nostalgie, parce qu'en fait, on le vit encore un peu comme au début, quoi. C'est juste, ouais... Le projet a grandi avec nous, quoi.
La relève que vous mettez à l'honneur samedi, vous avez confiance en elle? Parce qu'il y a les trois groupes, évidemment, qui sont à l'affiche, mais on peut citer aussi Burn School, les très jeunes Burn School. Enfin, quel regard vous portez sur cette très jeune scène angevine, hormis celle que vous mettez à l'honneur samedi? Mais voilà, quelle dynamique il y a à Angers en ce moment, musicalement parlant?
Eh ben, justement, les Burn School qui font aussi partie du réseau et... Enfin, on avait pensé à les programmer, mais vu qu'ils ont joué avec Daria au Boléro, on a estimé qu'ils avaient eu aussi leur...
leur heure de gloire.
C'est bon. Leur petit moment, donc du coup, on les a pas mis dans cette programmation. Mais moi, je trouve ça très motivant, parce qu'il y a plein... Enfin, je sais pas si c'est que on a fait l'effort ou qu'ils sont venus vers nous, enfin, comment ça s'est passé, mais là, ça faisait un moment qu'on avait du mal à retrouver des jeunes groupes comme ça, c'est qu'on devait plus avoir le réseau via le face-to-face... Et la fête de la musique qui nous écrivent maintenant. Et je pense qu'il y a toujours eu des groupes. Mais moi, j'ai foi en cette nouvelle génération. Ils sont bien motivés, ils ont un niaque, ils travaillent. Je trouve qu'ils prennent conscience, ils écoutent les conseils et ils perdent pas de temps quand même. Quoi.
Ouais, c'est... À chaque fois, en plus, ils sont plaisants à accueillir. Ces groupes-là, ça fait 2 ans qu'on commence à les voir un petit peu dans le circuit. Et puis, on voit déjà qu'il y a une grosse, grosse marge de progression, alors que les gars, ils sont soit à peine majeurs, soit tout juste. On se dit qu'effectivement, si ça continue à bosser comme ça, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas les Daria de demain. Enfin, voilà, que ça, ils sont dans les bons rails, quoi. En tout cas, à mon sens, ouais, c'est...
En termes de projet pour Ultrason, quels sont-ils là dans les mois à venir? Après cette date du 14 février.
On aura une autre date à Espace Culturel le 25 avril. La programmation n'est pas faite du tout pour le moment. Ensuite, la fête de la musique. On va lancer l'appel aux artistes prochainement. Et puis, et ensuite, ce sera le face-to-face en novembre 2015.
Donc, il y a re-face-to-face.
Ouais. La date n'est pas vraiment calée encore, mais on en a pour parler avec le quai, mais normalement, il se fera quelque chose, ce sera au même endroit. À peu près
dans la même période, théoriquement, ce sera courant novembre. Voilà.
Même configuration dans le forum du quai.
Ouais.
Et quand est-ce qu'on pourra commencer à envoyer nos candidatures?
Quand
nous prends de court, là.
Quand la date sera calée et que tout sera calé, on lancera l'appel aux artistes. Je pense que l'appel aux artistes sera lancé un peu comme l'année dernière, au moment de la fête de la musique. L'année dernière, on avait annoncé l'événement à la fête de la musique. Et l'appel aux artistes au mois de juillet, mais je pense que si on arrive à tenir nos calendriers, ce sera peut-être au moment de la fête de la musique.
Bon, en tout cas, là, juste samedi prochain, il faut être à l'espace culturel de l'université pour voir Black Bubble, Creamy Bird et Stupid Jokes. Allez-y, nombreux. Merci beaucoup, Cyrielle et Geoffroy, d'avoir été dans le sous-marin.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
Et puis là, on va écouter Black Bubble avec Billy.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on retrouve Robin pour Météo Campus, la météo sur Radio Campus.
Bon, d'accord, on essaye de rester calme. Mais arrivé un moment quand même, il faut arrêter de prendre les gens pour les imbéciles. Hein. On arrive carrément au mois de juillet. Et qu'est-ce qu'on a eu? Un temps de merde, hein? Un temps complètement pourri. Ça commence vraiment à nous casser les hein.
Météo. Classique des Français, se plaindre de la météo. Mais vous êtes bien content de vous servir d'elle pour trouver un sujet de conversation avec des gens que vous n'aimez pas trop. Tu as vu, Tiffaine, mardi dernier, l'anticyclone centré entre les îles britanniques et le Benelux se décaler lentement vers l'Allemagne.
Ah oui, j'ai remarqué.
Intéressant. Ou encore, il faisait un froid de canard ce matin, Tiffaine, tu ne trouves pas?
Si, j'ai mis un pull.
Très bien. Allez, petit test météorologique, pour tout le monde d'ailleurs, qui est autour de la table. Quelle température fait-il ce soir à Hong Kong?
Geoffroy, micro ouvert. Cyrielle?
Hong Kong, je vote 11.
J'en ai aucune idée, moi.
17?
Eh ben, faux. Il fait 14 degrés avec une couverture nuageuse partielle.
Égalité parfaite. 17, 11, 14, c'est en plein milieu.
Un chacun.
Pas si mal.
Est-ce que vous voulez retenter votre chance?
Oui.
0800 06 66 66. Quel est ce numéro de téléphone?
Celui du Père Noël?
Non, c'est Canicule Info Service. Alors retenez-le, cela pourrait vous servir un jour. Nous sommes tous concernés par les canicules, n'est-ce pas, Tiffaine?
Oui.
J'oubliais, demain il flotte. Alors, sortez couverts. Plein d'œil.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
C'est vrai, flotte d'eau.
Ouais, je crois.
La perle de ce soir, c'est le concert de Guillaume-Édouard Trio au Gecko à 21h, un trio tout neuf pour un live brodé de chansons françaises. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Un mardi sur deux, Ta gueule Coubertin vous parle de sport. Mardi dernier, Julien a causé badminton.
Bon, j'ai lu dans l'équipe. Bon, Wikipédia et l'équipe, j'avoue que j'ai des sources de dingue aujourd'hui, que la France était en préparation pour le championnat d'Europe mixte qui se déroule à Louvain. C'est chez nos amis belges, du 11 au 15 février. Et à votre avis, quelle prouesse a fait la fédération française?
Je sais pas, dans les fédés on peut s'attendre à tout.
C'est vrai que quel que soit le sport, il y a du ménage à faire. Mais bon, là on s'égare. Notre bien-aimée fédération n'a rien trouvé de mieux, deux jours avant le début de la compétition, que de remercier ses deux entraîneurs, Bertrand Guellet et Svetoslav Stoyanov. Sur le site officiel de la Fédé, on peut lire que ce coup de balai fait suite, je cite, à un important différend concernant la conduite des joueurs dans le cadre de la préparation au championnat d'Europe. D'après ce que j'ai compris, mais bon, hein, ça vaut pas grand-chose parce que j'y connais rien en badminton, le différend en question porte sur le calendrier de l'équipe de France. D'un côté, la Fédération veut envoyer la grosse armada aux Jeux européens qui se dérouleront à Bakou au mois de juin. Et de l'autre, vous avez les coachs qui, eux, visent surtout la qualification pour les JO de Rio en 2016. Qu'est-ce qui fait que nos valeureux badistes ne pourraient pas remporter des médailles aux Jeux européens et gérer la qualif pour les JO? Comme vous le savez certainement, la qualif pour les JO passe par des compétitions intermédiaires qui permettent de marquer des points. L'organisation du calendrier fait que les Jeux européens ne rapportent pas de points. Se déroule en même temps que des tournois au Canada et aux USA qui eux en rapportent. Mais alors, quelle est la solution pour mettre tout le monde d'accord? Petite devinette, qui se trouve entre la fédération et les joueurs?
Les entraîneurs.
Bonne réponse Valentin, je te félicite, tu viens de virer deux personnes.
Vous pouvez réécouter la suite et surtout la totalité de Ta gueule Coubertin sur le www.radiocampusangers.com et dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Turbulence avec Mister Météo.
Yo, yo, yo.
Salut Robin.
Salut Tiffen, comment tu te portes?
Bah, je me porte bien puisque demain, il fait combien demain?
Je sais pas, il pleut.
Il pleut.
Mais tu es très ensoleillé aujourd'hui.
Bon, on passe à ce qui va se passer dans Turbulence ce soir, Robin.
Bentham, HIP, HOP.
Du
hip-hop. En
fait. Des mots et des lives. C'est ça?
Exactement, pas du live, non, on passera son EP à la fin.
D'accord.
Pour des raisons techniques.
Des 20h avec Florane et toi au micro et Bentham dans le studio.
Exactement, tu t'es bien renseigné.
Merci Robin, merci à Pierre-Antoine, merci à Pierre et à David pour la réalisation et à Thomas pour la co-préparation de l'émission. Le sous-marin part en vacances, figurez-vous. On se retrouve donc lundi 23 février à 19h. Passez une très bonne soirée et un beau mois de février à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.